Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Louis XIV, Madame de Maintenon et le grand tragédien Racine sont invités chez Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous avez oublié un invité pour cette émission, notre ami Christophe Maury, l'homme de théâtre de cette émission et qui va donner chair et voix aux trois autres. Nous parlons en effet des deux pièces écrites par Jean Racine pour la maison d'éducation de Saint-Cyr, fondée par Madame de Maintenon, un moment étonnant de l'histoire du théâtre. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question d'Yves sur l'origine des applaudissements, ce qui est de circonstance. Eh bien pour la peine, vous aurez le droit d'applaudir, tiens.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Pour Madame de Maintenon, l'été 1686 marque un aboutissement. À Saint-Cyr, donc on est tout près de Versailles, l'institution dévolue à l'éducation de 250 jeunes filles nobles et pauvres. Cette institution, dont elle a depuis si longtemps porté le projet, ouvre enfin ses portes. Pour Madame de Maintenon, pour celle qui, au terme d'une des ascensions les plus extraordinaires de l'histoire de France, est devenue l'épouse secrète de Louis XIV, cette fondation est en quelque sorte un juste retour des choses. Elle n'a rien oublié, en effet, Madame de Maintenon, du dénuement de son enfance. Elle entend bien offrir une instruction de qualité à toutes ces jeunes filles qui, d'une certaine façon, ont un peu le même destin que le sien, alors au moins dans les premières années. Désormais, Saint-Cyr est pour la presque reine de 50 ans, un refuge, une retraite, un empire intime et, il faut l'imaginer, se plongeant avec délice dans les bonheurs de l'éducation, au son des rires enfantins, des prières récitées en communauté, elle va pouvoir prendre ses distances, croit-elle, avec les obligations de la cour. Elle exerce là, dans cette institution, sa passion la plus profonde, celle de l'éducation. Un auteur, il y a une cinquantaine d'années, avait écrit un ouvrage sur Madame de Maintenon, « Première institutrice de France », l'avait-il appelé. À Saint-Cyr, elle veille à tout, Françoise. De la couleur des rubans des élèves, au choix des éducatrices, en passant par les enseignements proposés. Et à cet égard, elle fait preuve d'une certaine modernité, il faut le dire. Par exemple, comme les jésuites, elle pense que le théâtre peut avoir des vertus pédagogiques. Et elle se dit que les élèves de Saint-Cyr vont pouvoir déclamer des vers, que ce sera bon pour elle. Alors des vers médiocres dans un premier temps. Et puis, le bon goût impose peu à peu les vers parfaits de Corneille et de Racine. Seulement, il y a un problème, aux yeux de l'éducatrice en tout cas, c'est que les pièces de Corneille et de Racine sont pleines de passion, d'emportement, d'amours extraordinaires, et tout ça a tendance à favoriser des penchants dangereux chez les petites protégées. Madame de Quélus, la petite cousine de Madame de Maintenon et qui a eu la bonne idée de nous laisser des souvenirs, le raconte. Cependant, dit-elle, comme elle était persuadée que ces sortes d'amusements sont bons à la jeunesse, qu'ils donnent de la grâce, apprennent à mieux prononcer et cultivent la mémoire, elle écrivit à Monsieur Racine. « Nos filles viennent de jouer Andromaque, elles l'ont si bien joué qu'elles ne la joueront plus, ni aucune de vos pièces, lui dit-elle. » Elle le pria dans cette même lettre de lui faire, dans ses moments de loisir, quelque espèce de poème moral ou historique dont l'amour fut entièrement banni et dans lequel il ne crut pas que sa réputation fût intéressée puisqu'il demeurait enseveli à Saint-Cyr. Tellement bien dit. C'est le début d'une aventure dont ni Madame de Maintenon, ni Racine lui-même n'envisage les répercussions réelles. À cette époque, le dramaturge approche lui aussi de la cinquantaine. Il n'est plus du tout cet auteur intrépide et flamboyant qui, dans les années 1660-1670, a subjugué Paris en produisant chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre, Britannicus, Bérénice, Iphigénie, etc. On en parlera tout à l'heure avec Christophe Maury. Depuis Phèdre, en 1677, Racine a changé changé de vie. D'une certaine façon, on peut dire qu'il s'est rangé, qu'il a mûri, il est fatigué, il a rompu avec les grandes tragédies et surtout, il en a fini avec les cabales, ces espèces de querelles perpétuelles qui l'ont visé pendant si longtemps. Racine est devenu, un peu comme son ami Boileau du reste, il est devenu historiographe du roi. C'est une charge très prestigieuse, très prenante, peut-être pas tout à fait à la hauteur de son génie littéraire, disons-le. Quand Madame de Maintenon propose à Racine d'écrire donc une œuvre nouvelle pour son institution de Saint-Cyr, on est en 1688, 11 années ont passé depuis Phèdre. Au début, Racine hésite peut-être un peu, seulement évidemment une demande de Madame de Maintenon, ça ne se refuse pas. Le voilà donc qui cherche un sujet à traiter, ce sera l'histoire d'Esther. Esther, cette épouse d'un souverain perse qui, dans la Bible, sauve les Juifs de la vengeance meurtrière d'un conseiller royal. Racine se lance, corps et âme dans le projet, il structure son œuvre, il avance vers après vers, il est suivi de près par Madame de Maintenon et, disons-le, par le roi en personne. Louis XIV s'intéresse à ce projet. C'est l'occasion pour le dramaturge d'innover, puisqu'il intègre un chœur à l'antique dans cette œuvre originale, bâtie en trois actes seulement, au lieu des cinq habituels. Alors bientôt, les rôles sont distribués par Racine lui-même et par Madame de Maintenon. Des jeunes filles se grimeront en hommes pour les rôles masculins, évidemment. On se met au travail, c'est une aventure formidable pour ces adolescentes qui, il y a peu encore, vivaient dans la gêne et dans la pauvreté, qui sont maintenant avec Madame de Maintenon et le grand Racine en train de répéter une pièce écrite pour elles. Vous imaginez, c'est complètement extraordinaire. À Saint-Cyr, on peut dire que l'extraordinaire de la situation prend le pas sur l'ordinaire de la vie quotidienne. Et c'est André Castelot qui nous le raconte. Pour les fillettes, la récréation que représente cette pièce en costume est un ravissement. Les premières répétitions ont lieu à Versailles même, dans le grand cabinet des appartements de Madame de Maintenon. À Saint-Cyr, pendant ce temps, on s'active pour transformer en salle de spectacle le vaste vestibule qui communique avec le dortoir. Comme des professionnels des planches, les pensionnaires ont prévu une répétition générale après laquelle il sera encore possible d'améliorer ou de modifier certains aspects du spectacle. Et bientôt à la cour, on ne parle plus que de cela. Vous savez que Madame de Maintenon est en train de faire répéter une nouvelle pièce de Racine. À l'approche de la première, en janvier 1689, il est évident que le projet censé rester confiné à Saint-Cyr prend une toute autre dimension. De là à ce qu'il échappe à ses promoteurs, il n'y a qu'un pas.
d'Esther, la tragédie de Racine mise en musique par Jean-Baptiste Moreau.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, Franck Ferrand sur Europe 1, vous nous racontez l'incroyable histoire de cette tragédie de Racine, Esther, commandée par Madame de Maintenon. Et voici maintenant une date importante pour l'histoire de cette pièce.
Le 26 janvier 1689, donc, c'est la grande première d'Esther à Saint-Cyr. Le roi Louis XIV est venu spécialement. Inutile de vous dire que le public est trié sur le volet. On reconnaît dans l'assistance le grand ministre Louvois ou encore l'évêque de Meaux, le grand prédicateur Bossuet. Le roi, assis dans un fauteuil face à la scène, écoute les vers avec attention. Il se retourne régulièrement vers Madame de Maintenon, qui est installée à proximité, un petit peu en arrière. Et il l'interroge sur tel ou tel détail. Visiblement, le roi est ravi. Très vite, les éloges se répandent dans toute la cour. Les quelques représentations d'Esther qui seront données jusqu'à la fin de février deviennent l'événement mondain de la saison. C'est là qu'il faut être vu. Être convié à assister à une représentation est un signe de faveur royale, tout simplement. Et Louis XIV prend plaisir à revoir la pièce. Il s'y montre joyeux, presque facétieux. De nouveau, André Castelot. Le roi s'amuse, nous dit-il, à jouer les contrôleurs à l'entrée de la salle, se servant de sa canne pour faire barrière et interdire l'entrée aux éventuels resquilleurs. Sa Majesté sévère ne laisse passer que les personnes conviées et pour ne pas gêner les petites comédiennes, il donne l'ordre de fermer la porte dès le lever de rideau. Tant pis pour les retardataires, à la fin de la représentation, Louis XIV, avec infiniment de bonne grâce, monte sur la scène et tient à remercier les actrices. Vous imaginez ce qu'elles sont en train de vivre. Lorsqu'après une représentation, une des jeunes filles sanglote pour avoir mal récité quelques vers, Racine lui-même la réconforte et le roi, un petit peu plus tard, va demander de ses nouvelles. On imagine que tout ça monte un peu à la tête des petites. Hein. Inutile de vous dire que les pensionnaires savent plus trop où elles habitent. On s'éloigne des sentiments de modestie que Madame de Maintenon avait l'intention de leur inculquer. Les représentations néanmoins vont continuer et à la cour, le grand jeu, c'est de chercher des messages cachés dans la pièce. Alors certains entendent le triomphe de Madame de Maintenon dans les vers suivants prononcés par Esther elle-même. « Et se peut-il qu'un roi craint de la terre entière, devant qui tout fléchit et baise la poussière, jette sur son esclave un regard si serein et m'offre sur son cœur un pouvoir souverain ?» Eh oui, c'est vrai que l'allusion est transparente. D'autres croient y lire des messages politiquement sensibles. Le mauvais conseiller du roi dans la pièce, celui qui pousse au massacre du peuple juif, pourrait être Louvois. Et le peuple opprimé, ce pourrait être les Huguenots. Après tout, on n'est que 4 ans après la révocation de l'édit de Nantes. On peut penser aussi aux jansénistes dont Racine se rapproche à cette époque. En réalité, disons-le, il est très peu probable que le dramaturge, qui tenait beaucoup à la faveur du roi, se soit risqué à ce genre de parallèle. Mais néanmoins, on ne prête qu'aux riches. Louis XIV et Madame de Maintenon sont d'ailleurs tellement satisfaits de l'œuvre de Racine qu'une deuxième œuvre est bientôt commandée dans la foulée. L'objectif, c'est que la nouvelle pièce puisse être jouée dès l'hiver suivant. Alors, tout ne va pas se passer comme prévu. Il faut dire que les entreprises théâtrales de l'épouse secrète du roi ne font pas l'unanimité. De nombreux religieux ont vu Esther sans s'offusquer. Mais c'est vrai qu'un certain nombre de personnes de la frange la plus dure du clergé jugent cette initiative avec sévérité. Le curé de Versailles, le père Hébert, adresse par exemple des reproches à Madame de Maintenon. Croyez-vous, madame, qu'il soit fort décent à des personnes de notre caractère d'assister à une tragédie représentée par des jeunes filles fort bien faites et qu'on ne peut pour lors se défendre de regarder pendant des heures entières? N'est-ce pas s'exposer à des tentations? Et le peut-on faire en conscience? Sur cela, je vous dirais franchement que quelques courtisans m'ont avoué que la vue des jeunes demoiselles faisait de très vives impressions sur leur cœur. Tant que ça n'est que sur leur cœur, il faut bien reconnaître que la frontière étanche, voulue entre Saint-Cyr et le monde, cette frontière est en train de se fissurer, mais c'était prévisible, le projet est en train d'échapper complètement à ses concepteurs, des rumeurs se mettent à circuler, des faits inquiètent, c'est André Castelot encore une fois qui précise. que les jeunes filles de Saint-Cyr émeuvent beaucoup nombre de jeunes gens qui, parfois, s'enhardissent à leur envoyer des billets doux, à leur fixer des rendez-vous galants, voire à tenter de les enlever. On parlera même d'une jeune fille séduite qu'il faudra marier en toute hâte à son suborneur. À ces cas extrêmes s'ajoute la vanité naissante des colombes. Eh oui, les petites jeunes filles ne sont plus du tout aussi pures qu'elles en avaient l'air, et un certain nombre des spectateurs qui viennent les applaudir à Saint-Cyr n'ont jamais prétendu à la moindre pureté. Alors que Racine prépare un des plus grands chefs-d'œuvre de notre littérature, Athalie, la pression devient donc très forte sur les épaules de Madame de Maintenon. Et pour cette deuxième commande qu'il exécute pour Saint-Cyr, Racine travaille moins bien que la première fois. On peut dire qu'Esther, cette espèce de grand poème, était sorti d'un jet de ce cerveau rompu au vert et qui sans doute avait depuis longtemps l'envie de s'y remettre, même s'il avait pris, si je puis dire, quelques vacances. Eh bien là, Racine se met à travailler lentement. Début 1690, on se contente donc de rejouer Esther, car la nouvelle pièce, Athalie, n'est pas prête. Elle ne sera achevée que quelques mois plus tard. Alors on donne tout de suite des répétitions, bien entendu, avec les demoiselles de Saint-Cyr. Vous imaginez de nouveau à quel point l'excitation peut monter.
Esther, la tragédie de Racine, mise en musique par Jean-Baptiste Moreau. Restez avec nous sur Europe 1 cet après-midi. Franck Ferrand vous propose de découvrir ces pièces et ces tragédies écrites par Racine et commandées par Madame de Maintenon. On en parle jusqu'à 15h. Vous pouvez continuer à réagir à cette émission. Vous êtes nombreux. Vous pouvez poser vos questions à Franck Ferrand et son invité sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook de l'émission Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et aujourd'hui, dans Au cœur de l'histoire, il y a de très grandes personnalités historiques. Louis XIV, Madame de Maintenon, qui a commandé des pièces à Racine, et puis bien sûr le grand tragédien Racine. Vous nous emmenez sur les traces de ces incroyables tragédies écrites par Racine, Franck Ferrand.
Alors, pour la deuxième pièce, donc Athalie, Racine a repris le grand modèle plus traditionnel des tragédies en cinq actes. Il s'est un peu éloigné du modèle antique dont il avait tenté de se rapprocher pour Esther. Il revient au modèle français, bien que le récit biblique d'Athalie, évidemment, l'amène vers les plus hauts sommets de l'inspiration. Il y a dans la pièce de Racine une force, une profondeur. Il y a des nuances qui font penser au sommet de la période profane de son théâtre, à l'époque où justement il écrivait Bérénice et Iphigénie, etc. L'histoire de cette souveraine idolâtre qui finit par chuter, cette histoire est l'occasion de morceaux de bravoure théâtraux, dont le fameux songe d'Athalie. Est-ce que je vais vous le... Bah oui, allons-y quand même, ce songe d'Athalie. Un songe, me devrais-je inquiéter d'un songe, entretient dans mon cœur un chagrin qui le ronge. Je l'évite partout, partout il me poursuit. C'était pendant l'horreur d'une profonde nuit. Ma mère Jézabel devant moi s'est montrée comme au jour de sa mort pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté. Même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. « Tremble, m'a-t-elle dit, fille digne de moi, le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi. » Évidemment, ça donne des frissons. Ce sont parmi les plus beaux vers, encore une fois, de Racine. Mais alors que ses protégés sont en train d'apprendre leurs textes, sont dans les préparatifs et dans l'excitation des représentations à venir, Madame de Maintenon se dit que tout ça commence à prendre une dimension un peu inquiétante. Elle ne peut pas ignorer les critiques qui, à la cour et même hors de la cour, sont en train d'assaillir son projet. Le 5 janvier 1691, une répétition a lieu devant le roi, très sobrement, pas de costume, pas de décor. Vous voyez que déjà on fait machine arrière. Mais même si d'autres répétitions ont lieu devant un public restreint, Athalie, vous l'aurez compris, est mise gentiment sous le boisseau. Madame de Caylus. Madame de Maintenon reçut de tous côtés tant d'avis et tant de représentations des dévots, qui agissaient en cela de bonne foi, et de la part de poètes jaloux de la gloire de Racine, qu'ils empêchèrent enfin Athalie d'être représentée sur le théâtre. On va faire une édition de la pièce, mais une édition qui reçoit un accueil très frais. Et tout ça touche Racine au cœur, bien entendu. Une page se tourne, Athalie sera la dernière grande tragédie du maître. Racine a tout de même des motifs de satisfaction, puisque pour l'instant il est toujours très en faveur. Il a acquis à la fin de 1690 la charge de gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, s'il vous plaît. Il est toujours historiographe, par ailleurs. Mais d'après plusieurs auteurs, on peut dire que les relations de Racine avec Louis XIV sont en train de se refroidir. Si l'on en croit son fils, qui va écrire sa biographie bien après sa mort, son père, Jean Racine, aurait été victime d'une maladresse de Madame de Maintenon. En effet, elle l'avait un jour entendu parler des malheurs du peuple et elle lui avait demandé d'écrire un mémoire sur le sujet. Mémoire qui devait rester parfaitement secret, mais qui est tombé sous les yeux du roi. Est-ce que Madame de Maintenon l'a mis elle-même sous les yeux du roi? En tout cas, Louis XIV aurait dit « Alors, parce qu'il sait faire parfaitement des vers, croit-il tout savoir? Et parce qu'il est grand poète, veut-il être ministre ?» Ah oui, ça sent un peu le roussi. Une autre histoire est reprise par Saint-Simon. Le mémorialiste prétend que, discutant avec le roi et Madame de Maintenon, donc Madame de Maintenon, vous savez, était la veuve du poète complètement infirme, Scarron, et il parle, donc Racine parle en petit comité du peu d'attrait des spectacles joués à Paris, à ce moment-là, il va commettre une terrible bévue. Pour lui, explique-t-il, l'un des problèmes, c'est que les comédiens jouent les pièces de Scarron qui ne valent rien et qui rebutent tout le monde. Évidemment, on a connu plus d'à propos, quand même. Ça n'est pas très courtisant. Saint-Simon précise, à ce mot, la pauvre veuve rougit, il est tellement content de raconter ça évidemment, non pas de la réputation du Cujat attaqué, mais d'entendre prononcer son nom devant le successeur. En fait, malgré le côté savoureux de ces deux histoires, disons-le clairement, on n'en a aucune preuve. Ce sont des on-dit. Il semble bien que Racine se soit alarmé de l'état de ses relations avec le roi au début de 1698, sans qu'on sache pourquoi. L'orage, apparemment, n'a pas été très durable. André Le Gall, le biographe de Racine, nous dit « Les données objectives ne confirment pas cette rumeur de disgrâce qui enveloppe la dernière année de vie de Racine. » Vous me permettrez quand même de penser qu'il n'y a jamais de fumée sans feu dans ce genre d'affaires. Si l'auteur a suscité, temporairement ou non, la méfiance du roi, on peut chercher une explication possible plutôt dans ses liens avec Port-Royal. Vous savez que Racine s'est rapproché de ce pôle janséniste où il avait été éduqué autrefois. Racine a pris des risques, il a cultivé des liens suspects avec cette mouvance janséniste que Louis XIV considère comme impie, comme ennemi même. Quoi qu'il en soit, divers épisodes de maladie, l'attirance pour une vie pieuse vont pousser le grand poète dramatique à s'éloigner un petit peu de la cour à partir donc de 1698. L'année suivante au printemps, après un léger mieux, sa santé se dégrade. Il sent que la fin approche. Le roi fait quand même demander de ses nouvelles, ce qui prouve qu'il n'est pas en disgrâce. Et Racine mourra le 21 avril 1699, quelques heures avant le lever du jour. Il est entouré de ses proches. Lorsqu'Athalie sera enfin véritablement représentée au théâtre, c'est-à-dire 17 ans plus tard seulement sous la Régence, la pièce connaîtra un certain succès. Quant à Voltaire, et l'on avait bien besoin, vous l'avouerez, de l'avis de Voltaire sur cette affaire, Voltaire y verra, malgré quelques réserves par ailleurs, peut-être le chef-d'œuvre de l'esprit humain. Bonjour Christophe Maury.
Bonjour Franck Ferrand.
Avec vous dans quelques instants, nous allons revenir non seulement sur Esther et Attali, mais sur l'ensemble des pièces de Racine et puis sur le bonhomme lui-même qui mérite qu'on se penche sur son cas.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Cet après-midi, Franck Ferrand sur Europe 1, vous nous faites découvrir un autre Racine. Effectivement, le dramaturge et poète français était proche de la cour, proche de Madame de Maintenon, pour qui il a écrit des pièces, des commandes donc. Et on parle de ce Racine-là avec votre invité Christophe Maury, romancier, écrivain, éditeur de théâtre et auteur de Molière, paru chez Folio Biographie en 2007.
C'est amusant, l'histoire de ce grand poète dramatique, Racine, qui se retire un peu des affaires, qui devient un personnage officiel en quelque sorte, l'historiographe, quand on dit l'historiographe, on pourrait dire aujourd'hui le directeur de la communication du roi de France, et qui se retrouve convoqué littéralement par l'épouse morganatique du roi, donc par une très haute personnalité de la cour, pour écrire de nouveau une pièce. Est-ce qu'il y revient avec cœur, d'après vous, Christophe Maury? Est-ce qu'il est heureux d'écrire Esther?
Je ne sais pas. En fait, Madame de Maintenon va un peu instrumentaliser Racine. Et c'est Racine qui se présente à elle en disant « Je suis un homme qui passe sa vie à penser au roi, à s'informer des grandes actions du roi et à inspirer aux autres les sentiments d'amour et d'admiration qu'on a pour le roi. » Bon, il commence comme ça. Donc forcément, Madame de Maintenon sait bien que cet homme va s'occuper entièrement de la réputation post-mortem du roi, et historiographe, on peut imaginer qu'avec Boileau, ils ont écrit des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses.
Oui, dans tous les registres. Hein. Ce sont eux notamment qui font les devises qui vont être installées dans la Galerie des Glaces,
oui.
Hein, par exemple.
Mais l'historiographe, il doit bien raconter comme Virgile, il doit bien raconter l'histoire. Et tout a brûlé. Donc on n'a pas ces écrits de prose.
Qui devait être bien ennuyeux entre nous, non? Enfin, je ne sais pas, après tout. On n'en sait rien.
Alors vous savez, Racine, c'est difficile. Racine, c'est difficile parce que le jansénisme, parce que Port-Royal, c'est une histoire complexe, la volonté d'en découdre, parce que Corneille auquel il s'affronte, parce que Molière qu'il trahit, parce qu'il écrit la plus belle langue du théâtre, parce qu'il est un humaniste avant l'heure, tout en étant splendidement chrétien à sa manière. Il est marqué par le jansénisme de Port-Royal et le libertinage de La Fontaine.
il est un peu à la croisée de tous les chemins du grand siècle.
Il est tout en contradiction et il demeure un monument quasi monolithique.
Ouais, c'est bizarre.
Donc c'est assez étrange la façon d'aborder Racine. Il va bien falloir, Franck Ferrand, qu'on prenne un tournevis et qu'on ouvre une petite voie.
Moi, je trouve que l'auteur est sublime et que le bonhomme l'est beaucoup moins. On va y venir tout à l'heure.
Le bonhomme n'est pas sympathique.
Non. Hein,
le bonhomme n'est pas sympathique.
Non.
Alors, c'est pas facile de discerner le bonhomme. Il est plus animé par l'ambition personnelle que par le grand art. Or, il parvient au grand art. Oui. Alors, qui est Jean Racine, finalement? Ben, Jean Racine, c'est d'abord un orphelin.
Oui.
C'est un orphelin, il a une sœur, sa sœur va être élevée par les grands-parents paternels et lui va être élevé par les grands-parents maternels. Et en fait, c'est un homme qui va être élevé par trois femmes. Il y a Marguerite, la nourrice, il y a Agnès qui va devenir sœur Agnès de Port-Royal, la tante. Mais Agnès, elle n'a que 13 ans de différence.
Alors, avant, on va revenir bien sûr sur toute la vie de Racine, mais je voudrais qu'on finisse d'évoquer ses relations un peu particulières avec le roi et Madame de Maintenon.
Oui.
Il était dans l'intimité de ces deux-là, quand même. C'est-à-dire qu'il se trouvait, il faut avoir une idée de ce que ça représente. La France est, évidemment, on le dit souvent, mais à l'époque, c'est la première puissance du monde. Le roi Louis XIV est le plus grand souverain de l'histoire de France. Enfin, Racine a la chance, si je puis dire, de passer des soirées, à une époque où la télévision n'existe pas, à distraire le roi et Madame de Maintenon, qui, entre parenthèses, sont pas d'un tempérament très rigolo, et donc ça doit pas être très amusant tous les jours. Donc il est dans le sein des saints, un peu comme s'il était aujourd'hui le conseiller et l'ami intime du président des États-Unis, disons, hein, pour se faire une idée. Bon, il est là, dans ce petit cercle, dans ce monde-là. Or, ça paraît complètement incroyable, il fait partie, qu'on le veuille ou non, de la communauté que Louis XIV déteste le plus, c'est-à-dire les jansénistes.
Et oui.
Comment est-ce qu'on résout une affaire pareille? C'est incroyable.
Eh ben, on la résout pas, et c'est bien... Vous parliez tout à l'heure de disgrâce. Je crois qu'il n'y a pas eu de disgrâce. Il a été écarté, gentiment. Et je crois qu'il y a une grande lassitude.
De part et d'autre, peut-être, non?
De part et d'autre. Et Louis XIV s'est lassé de Racine, comme il s'était lassé de Molière. Vous parliez d'Esther tout à l'heure, et vous évoquiez très joliment ces petites filles qui jouaient sur scène. Écoutez juste deux vers, mais c'est vraiment Racine dans la bouche des petites filles. Élise dit, n'avez-vous point au roi confié vos ennuis? Vous imaginez le roi qui est là, juste devant, et puis il y a la petite fille qui arrive sur scène et qui dit « N'avez-vous point au roi confié vos ennuis ?» Et plus loin, il y a Esther qui dit « Oh mon souverain roi, me voici donc tremblante et seule devant toi. » Vous imaginez, c'est absolument ravissant quand on reprend Esther de s'imaginer l'enfant qui est devant le roi et qui lui dit « Oh mon souverain roi, me voici donc tremblante et seule devant toi. »
Il ne faut pas oublier que Louis XIV sortait d'une terrible opération, hein, la fameuse fistule, et que les jeunes filles l'avaient accueilli à Saint-Cyr en chantant le « Dieu sauve le roi » qui est le texte et la musique originaux de l'hymne britannique actuel, « God save the Queen hein, » d'ailleurs.
Revenons sur Esther. Franck Ferrand, la fin, le dernier vers de la piété, parce que ça commence par un grand prologue dit par la piété, et ça se termine par « Tout respire ici Dieu, la paix, la vérité ». Et « Tout respire ici Dieu, la paix, la vérité », qu'est-ce que c'est? C'est le retour pour Racine à l'enfance et à Port-Royal. Port-Royal dont il s'était démarqué, je vous ai dit que sœur Agnès, elle avait 13 ans de plus que lui, c'était sa tante, et elle va quasiment l'excommunier lorsqu'il va être dans le théâtre. Et c'est à ce moment-là où, quand il écrit « Tout respire ici, Dieu, la paix, la vérité », il écrit en même temps son testament, et écoutez-moi bien, « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je désire qu'après ma mort, mon corps soit porté à Port-Royal des Champs, alors que ça avait été interdit, et qu'il soit inhumé dans le cimetière au pied de la fosse de Monsieur Armand. Je supplie humblement la mère abbesse et les religieuses de vouloir bien m'accorder cet honneur, quoique je m'en reconnaisse bien indigne, et par les scandales de ma vie passée, et par le peu d'usage que j'ai fait de l'excellente éducation que j'ai reçue autrefois dans cette maison, et des grands exemples de piété et de pénitence que j'y ai vus, et dont
famille.
Je n'ai été qu'un stérile admirateur.
Un stérile admirateur pour quelqu'un qui a été si fécond, par ailleurs,
c'est
dans
étonnant.
Ses grands écrits. Il est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un orphelin, il ne faut pas l'oublier.
Oui.
C'est sa famille, en vérité.
C'est sa racine.
C'est sa racine, vous voyez le lapsus. C'est sa famille, Port-Royal, tout simplement.
C'est sa famille, je vous ai dit, il a eu Marguerite la nourrice, il a eu Agnès la tante, et puis il y a Marie Desmoulins, la grand-mère qu'il va appeler ma mère. Donc, il est élevé par trois femmes, et ensuite, il va aller aux petites écoles de Port-Royal, et là, l'éducation est absolument extraordinaire.
Oui.
C'est-à-dire qu'on le ressent dans ses pièces.
On voit le résultat, en tout cas.
Il connaît le latin par cœur, il lit le grec, et il lit l'espagnol. Et il dévore tous les livres qui lui passent par la main, et il va être très étonné d'un certain nombre d'interdits, parce que les éducateurs considèrent que tel ou tel livre est licencieux. Et lui dévore tout, même en cachette. Alors, c'est assez étonnant, parce que il faut qu'il trouve de l'argent. La famille a de l'argent, mais pas plus que ça, et il va falloir qu'il trouve une charge ecclésiastique et des bénéfices ecclésiastiques. Et ça va être le fameux voyage à Uzès. Mmh. Mais pour ça, il faudrait soit qu'il ait la petite tonsure, soit qu'il devienne prêtre. Mais il n'a pas du tout la vocation pour être prêtre, et à ce moment-là, il va se démarquer totalement de Port-Royal, et quand il dit dans son testament qu'il a eu l'excellente éducation que j'ai reçue autrefois dans cette maison, des grands exemples de piété, etc., il a ça pour lui, mais ça va être le grand moment de la licence.
Et voilà. Nos nuits sont plus belles que vos jours.
Absolument.
Si je ne m'abuse.
Et il va écrire à La Fontaine « J'ai été loup avec vous et avec les autres loups, vos compères ». Et ça va être une folie dans les grands cabarets parisiens, le Mouton Blanc, la Pomme de Pin, la Croix de Lorraine. Il va faire des dettes, il va être très endetté, il faut absolument qu'il trouve de l'argent. Et que veut-il, Racine ? Eh bien, il veut la gloire et l'argent. Aujourd'hui, la gloire et l'argent, c'est le foot. À l'époque, c'est le théâtre. Donc, il faut qu'il écrive pour le théâtre. Alors, il faut qu'il soit reconnu d'abord comme écrivain. Pour être reconnu comme écrivain, il faut qu'il soit pensionné. Pour qu'il soit pensionné, il faut qu'il ait la pension de Monsieur Chapelain. Et pour qu'il ait la pension de Chapelain, ben, il faut qu'il fasse une ode. Alors, une ode au roi. Alors, que faire ? Eh bien, le roi se marie avec Marie-Thérèse. Il y a la paix des Pyrénées. On fait venir Marie-Thérèse à Paris. Et on va écrire, tous les auteurs écrivent une ode à ce moment-là. Et lui se souvient, Racine, c'est là où je vous dis, le type est pas très... Il se souvient que Malherbe avait fait une ode pour Marie de Médicis, non pas pour le roi, mais pour accueillir l'étrangère en France. Et il va donc, Racine, écrire une ode pour Marie-Thérèse, et qui va être la grande versification, si vous voulez, pour le mariage du roi et pour la venue de Marie-Thérèse.
On a l'impression qu'il est toujours dans l'inspiration de quelqu'un.
Toujours.
Vous avez parlé de La Fontaine, Molière, bien entendu, Corneille, n'en parlons pas, qui est en quelque sorte son obsession. Il se définit par rapport aux autres. Nous allons, dans un instant, si vous le voulez, Christophe Maury, revenir sur les relations de Racine avec tous ces grands auteurs du XVIIe siècle.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Après-midi, c'est Racine, le tragédien qui est à l'honneur sur Europe 1. Avec votre invité, Franck Ferrand, vous recevez Christophe Maury, romancier, écrivain, éditeur de théâtre et auteur de Molière, paru chez Folio Biographie. Il est temps maintenant de parler des relations de Racine avec les autres grands auteurs du XVIIe siècle.
Sur une Racine de la Bruyère, une Corneille, Boileau, de La Fontaine, Molière, c'est la phrase que les écoliers apprenaient pour se rappeler tous les noms des grands auteurs du grand siècle. Racine en fait partie, bien entendu, mais on a un peu l'impression qu'il est celui qui entre par effraction dans le club. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est une réalité, Christophe Maury ?
Je crois qu'il était très timide.
Oui.
Je crois qu'il était très timide, il devait être assez complexé. Peut-être. Et alors, le premier qui va le décomplexer, c'est La Fontaine. Alors, La Fontaine, joyeux de riz, grand buveur, et ils vont être terriblement intimes jusqu'à la mort. Alors, vous savez que La Fontaine est très licencieux, on parle toujours du corbeau et du renard, mais il faut quand même lire les contes érotiques de La Fontaine pour bien comprendre. Est-ce La Fontaine qui a mis des contrepétries dans les vers de Racine, dans Phèdre, par exemple. Alors là, on ne va pas dévoiler la contrepétrie, je dis le vers, et puis ce sont les auditeurs d'Europe 1 qui les trouveront. Il faudrait faire un jeu. Alors, Phèdre, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée. Et un peu plus loin, souvent dans sa colère, il reçoit nos victimes. Ses présents sont souvent la peine de nos crimes. C'est dans Phèdre.
Oui.
Bon, et Phèdre passe quand même pour une tragédie qui n'est pas très drôle, une vraie tragédie, on n'est pas là pour rigoler. Eh bien, à l'intérieur, il y a des contrepétries. Et quand vous voyez que Racine, qui connaît son latin par cœur, utilise la langue française syllabe par syllabe, avec une économie de mots.
C'est exactement ce qu'il écrit.
C'est exactement
bien
ce qu'il écrit.
Bien
et je cherchais dans leur flanc ma raison égarée, je trouve ça absolument magnifique. Et c'est le petit clin d'œil, je pense, à La Fontaine.
Je signale tout de suite à nos auditeurs que nous ne nous chargeons pas de la traduction de la contrepétrie. Chacun de trouver la solution. C'est assez simple.
Bon, quand alors on avec
sait
Molière.
Quand on sait que les contrepétries fonctionnent toujours sur le même principe et sur les mêmes mots, d'une certaine façon. Alors, ça, c'était avec La Fontaine. Molière n'est pas un triste non plus. C'est un homme de théâtre, lui, alors vraiment.
Molière, c'est un homme de théâtre. Et puis, il va y avoir la trahison. Il faut le dire, parce que Racine avait écrit une première pièce qui s'appelait Amasie. On est en 1660, il la propose au Marais, et Larocque, qui est le patron du Marais, trouve la pièce intéressante. Et bon, est-ce qu'il a voulu complimenter ? Je n'en sais rien, toujours est-il que Racine était persuadé que la pièce allait être montée. En fait, elle ne le sera pas, et c'est Charles Perrault qui va dézinguer la pièce.
Donc, autant dire le roi lui-même, hein, puisque Charles Perrault est le principal conseiller de Colbert et il fait la pluie et le beau temps dans les arts à cette époque. Hein.
Donc, ça démarre mal pour Racine. Et Racine va aller voir Molière et va lui proposer une pièce et ça va être la Thébaïde. Et Molière va travailler la pièce avec Racine. Et on a dans le manuscrit, sur la gauche, une écriture, peut-être est-ce celle de Molière, en disant, est-ce que ça ralentit l'action? Est-ce que c'est important pour le personnage? Est-ce que... Et on raye des tirades entières, des vers entiers. La Thébaïde est jouée.
Ça veut dire qu'on a finalement quelques lignes de la main de Molière, vous voyez?
Sans doute. Je
ferme très vite ma parenthèse.
Sans doute. et ensuite, il va y avoir Alexandre le Grand. Molière retravaille la pièce avec Racine, organise la mise en scène, les comédiens travaillent le texte, jouent. Et le même soir, Franck Ferrand, le même soir, la pièce est montée à la fois au Palais Royal chez Molière et à l'Hôtel de Bourgogne. C'est-à-dire que Racine prenait les indications scéniques de Molière et allait ensuite les donner aux comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. Jamais dans l'histoire du théâtre.
Pas
jamais.
Très beau tout ça. Hein.
Non, c'est pas beau, mais c'est comme le Malherbe de tout à l'heure, quand il repique Malherbe pour faire l'ode.
Puis cette façon qu'il a de vouloir enterrer le grand Corneille, quand même, qui est le grand auteur de son temps. Et ils vont se disputer, si je puis dire, la faveur du public à propos du sujet de Tite et Bérénice.
Mais oui.
Et de Bérénice.
Et de Bérénice. Et là, on est en 1670. Et Racine tient absolument à Bérénice parce qu'il veut mettre en avant la Champmêlée. Et la Champmêlée, c'est Catherine Deneuve. Donc il est l'amant de la plus grande star après la mort de Marquise du Parc, qui fut aussi la maîtresse de Racine, puisqu'elle aura deux enfants de lui. Ce qui est très curieux d'ailleurs, je fais une parenthèse sur la vie amoureuse de Racine, c'est qu'on a ces années folles avec le théâtre peut-être pervertit les gens, je n'en sais rien. En tout cas, il a ces années complètement incroyables. Et avec ses deux maîtresses qui sont magnifiques. Et ensuite, il va se ranger, comme vous le disiez, après Phèdre en 1677, il va se ranger. Il va se marier. Et c'était un mariage de raison, parce qu'il épouse une riche héritière, Catherine. Et ça va devenir un mariage d'amour. Et ils vont avoir sept enfants. Alors vous voyez, c'est assez étonnant de voir cette vie où il vient de province, il vient de Port-Royal, il est janséniste, il part pour Uzès où il aurait dû être prêtre. Finalement, il revient à Paris, il va dans les cabarets avec La Fontaine, avec Molière, parce qu'il était très pote forcément avec Molière, avec Boileau. Et puis, il écrit ses chefs-d'œuvre absolus, Andromaque, Britannicus, Bérénice, Mithridate même, Iphigénie, Phèdre. Il n'écrit qu'une seule comédie, Les Plaideurs, en 1668. Les Plaideurs, il pique entièrement le sujet à Molière, puisque c'est la jalousie du barbouillé. Hein. Et se moque-t-il de Molière? Parce que Molière, vous savez, qui venait de Picardie, tous les poquelins, en disant « Tout Picard que j'étais un bon apôtre et je faisais claquer mon fouet tout comme un autre. » Bon, peut-être. En tout cas, il vole le sujet à Molière, il ne fait qu'une seule comédie, qui va être... je trouve assez réussi.
Oui, Les Plaideurs, c'est une belle comédie.
Et assez drôle. Alors, il se range. Est-ce qu'il devient fonctionnaire ? C'est la question que je me pose. Parce que, une fois qu'il est marié, un peu plan-plan, qu'il est très riche, il devient historiographe du roi, il suit le roi dans ses voyages.
Il est attiré par le soleil, tout simplement. Il se met en orbite, d'une certaine manière. Ce qu'il y a d'intéressant dans toute la première partie de la vie de Racine, c'est qu'elle est directement liée à ses passions. Passions amoureuses, vous l'avez dit, car avec plusieurs comédiennes, il va avoir des histoires extraordinaires. On n'a pas parlé de Marquise, mais, et de la mort de Marquise, d'ailleurs, mais c'est un sujet passionnant, avec ses compagnons auteurs, avec les académiciens, car il va entrer à l'Académie française au prix d'ailleurs de toutes sortes de, j'allais dire de compromissions, mais en tout cas de gentillesse. Il y a toute cette difficulté qu'il a à se placé par rapport au grand homme de la génération d'avant, c'est-à-dire Corneille, bien entendu, et puis les rapports avec les troupes, avec ces troupes de théâtre, évidemment, qui sont houleuses, qui sont complexes. Donc il faut remettre tout ça dans ce contexte. Et bien souvent, les critiques ont eu tendance à ne prendre que le texte, à sortir de la vie de Racine et à prendre ces textes comme s'ils avaient été écrits depuis je ne sais quel empiré, dans une forme d'éloignement très pur.
Totalement atemporel.
Et atemporel, ce qui n'est pas le cas, encore une fois.
Ce qui n'est pas le cas, c'est il est profondément marqué par toutes les contradictions du XVIIe.
Si on devait d'ailleurs citer les grands, les maîtres qui se sont penchés sur le cas de Racine, bon, il y a Roland Barthes, bien entendu, sur Racine, ouvrage absolument essentiel, qui parle autant du théâtre que de Racine lui-même, d'ailleurs, et qui est le contrepoint de la critique classique de Picard, que Barthes détestait. Thierry Monnier, grand racinien, bien entendu, et Mauriac, et toute cette classe d'auteurs des années 50 et 60 qui vont chercher dans Racine une sorte de renaissance de la langue.
Je crois que Mauriac est celui qui c'est le plus... enfin, pour moi, c'est la biographie la plus étonnante. Parce que Mauriac écrit au début de sa biographie, finalement, le biographe se penche toujours sur le sujet qui le ressemble. Alors on dit, mon Dieu, Mauriac se prend pour Racine. En fait, non. Mauriac voit toutes les contradictions. Mauriac est homosexuel et cache son homosexualité toute sa vie, en passant pour un grand auteur catholique. Bon, mais si vous regardez bien tous ses romans, il y a toujours des problèmes de sexe dans ses romans. Eh bien, il va aller dans la vie de Racine en montrant comment le jansénisme va être... pour Racine, un frein permanent, mais aussi ce qui fait qu'il va avoir ses années folles, c'est en contradiction par rapport à son jansénisme, et ensuite, il va y revenir, on l'a vu avec le testament. J'ai un petit détail amusant.
Et ce sera le dernier.
Lorsque La Fontaine meurt, on s'aperçoit qu'il portait le cilice.
La Fontaine.
La Fontaine.
Ne pas confondre avec Racine. Je vois mal Racine porter le cilice.
Oui, mais La Fontaine,
le cilice,
c'est celui qui...
C'est cet instrument d'auto-mortification.
Oui.
Merci beaucoup Christophe Maury.
C'est moi qui
je rappelle que votre Molière est paru en folio-biographie il y a quelques années maintenant. Il est toujours disponible, bien entendu. Et je signale à nos auditeurs qu'on peut vous retrouver à la librairie théâtrale, 3 rue de Marivaux, dans le 2e arrondissement, où l'on jouera du Racine tous les 3e vendredis du mois à partir de la rentrée, là, à partir de septembre. Merci.
Et dans un instant, nous restons au théâtre, puisque Franck Ferrand, vous allez nous donner les origines des applaudissements.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec aujourd'hui une question de circonstance, puisqu'on vient beaucoup de parler de théâtre avec Racine. Une question signée Yves sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Il voudrait connaître et savoir pourquoi nous avons pris l'habitude d'applaudir à la fin des spectacles.
Alors, les premiers applaudissements, vous imaginez bien que c'est très difficile à dater, puisque certains spécialistes nous disent qu'il s'agit tout simplement d'un instinct naturel. Regardez les très jeunes enfants qui se mettent à frapper dans leurs mains pour manifester leur joie. D'ailleurs, c'est une pratique universelle, même si, évidemment, on constate d'un pays à l'autre, d'une civilisation à l'autre, des différences dans la manière d'applaudir. C'est que les applaudissements sont très timides au Japon, par exemple. Ça correspond bien à la pudeur réclamée de la société japonaise. Dans certaines régions d'Italie ou d'Espagne, on applaudit à tout propos, on applaudit quand on se met à table, on applaudit enfin, et on applaudit même lors des funérailles le défunt au moment où passe le cercueil. Ça fait drôle quand on est en Italie qu'on voit ça pour la première fois. Dans certains pays, on applaudit également constamment tout au long du spectacle, quitte à interrompre l'artiste. Les Anglais sont doués pour ça. Et alors, il y a une chose qui m'a toujours beaucoup surpris en Angleterre, c'est l'espèce d'immédiateté des applaudissements qui se déclenche et qui s'arrête exactement en même temps, comme si c'était... Ça, c'est assez étonnant, c'est un phénomène collectif. Bref, je ne vais pas entrer là-dedans. La coutume, d'applaudir à la fin d'un spectacle, elle remonterait, semble-t-il, à la Rome antique. L'empereur Auguste, le fondateur de l'Empire, aurait demandé que les spectateurs, pour manifester leur approbation, frappent dans leurs mains pour essayer d'éviter qu'on se mette à crier à tue-tête. Il devait trouver que c'était pas très élégant, et puis surtout, on risquait toujours dans les cris de fin de spectacle de faire passer un certain nombre de messages, etc. Donc il est plus simple d'applaudir, tout simplement. D'ailleurs, le verbe applaudir vient du latin applaudere, qui signifie battre des mains, tout simplement. Et puis au fil des siècles, donc, les applaudissements vont prendre une telle ampleur dans le monde du spectacle qu'ils deviennent un instrument de manipulation, puisque vous savez qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, il va y avoir cette institution de la claque, c'est-à-dire des gens qui sont payés dans les salles pour lancer les applaudissements et pour chauffer, comme on dirait aujourd'hui, la salle. N'oubliez pas que lorsqu'on jouait une pièce de Racine devant le roi, on ne pouvait applaudir que lorsque Sa Majesté l'avait fait elle-même.